Dans les premiers mois de son nouvel exil, Mademoiselle fut occupée à tenir tête au roi. Louis XIV n'abandonnait pas son idée de la marier à Alphonse VI et Turenne s'efforçait de la mettre à la raison. D'où un mouvement de lettres et de visites officieuses qui avait ce bon côté de rompre la monotonie de Saint-Fargeau. La vie, cette fois, y était lourde. Le vieil entrain n'était pas revenu. Trop fière pour l'avouer, Mademoiselle faisait bonne contenance dans ses lettres. Elle écrivait à Bussy Rabutin le 9 novembre 1662. « Je crois que le séjour que je ferai ici sera plus long que vous ne le souhaitez. Si je n'avais peur de passer pour trop indifférente, je vous dirais que je ne m'en soucie guère. Peut-être dirais-je vrai, mais toutes vérités ne sont pas bonnes à dire. » Ses mémoires sont plus sincères. Elle y raconte qu'au bout de 5 mois de Saint-Fargeau, elle écrivit au roi qu'elle mourrait si elle restait là plus longtemps, que c'était un lieu malsain à cause des marais dont le château était entouré, qu'elle ne croyait point avoir rien fait qui méritât la mort, et une telle mort, et que s'il voulait lui faire une plus longue pénitence des crimes qu'elle n'avait pas commis, elle le suppliait de lui permettre d'aller à eux. Louis XIV permit eux, mais il fit savoir à Mademoiselle qu'il n'avait pas renoncé à la marier au roi de Portugal et qu'il espérait l'amener par son bon procédé au sentiment qu'elle devait avoir. Elle ne s'attarda pas à discuter.
« Je partis et quittai Saint-Fargeau sans regret. »
Ce fut un adieu définitif. Elle venait d'acheter le comté d'Eu, dans des circonstances qui font voir à quel point les fortunes terriennes et seigneuriales de l'ancien régime, qui paraissent de loin si solides, étaient fragiles en réalité et à la merci d'un accident. Le comté d'Eu était un bien de l'illustre et puissante famille de Guise. En 1654, le propriétaire du moment, Louis de Lorraine, duc de Joyeuse, fut tué au siège d'Arras, laissant un fils unique et en bas âge, Louis-Joseph de Lorraine, prince de Joinville. Cet enfant eut pour tutrice sa tante, Mademoiselle de Guise, personne entendue et importante, l'oracle de la famille, dit Saint-Simon. Il eut aussi 2 tuteurs, dont l'un, Claude de Bourdeil, comte de Montrésor, avait épousé secrètement Mademoiselle de Guise. À eux, 3 tuteurs et tutrices sentirent bientôt leur impuissance à défendre les intérêts qui leur étaient confiés. Le comté d'Eu était chargé de 2 millions de dettes, chiffre qui n'aurait point entraîné de désastre si le duc de Joyeuse avait été là pour faire respecter ses droits et pour réclamer sa part de la manne monarchique. Pension, gratification du roi, bénéfices, gouvernement, charge de cour, etc. Mais il n'y était pas, et les biens du mineur avaient été mis à la curée par les gens d'affaires d'une part, les paysans normands de l'autre. Contre les gens d'affaires, les tuteurs en furent réduits, après des années de lutte, à invoquer l'aide du Parlement. Ils lui adressèrent, en janvier 1660, une requête, où ils exposaient que leur pupille, parce qu'il n'était qu'un enfant, destitué des puissants moyens. Aurais-tu son père de faire les choses, était devenu la victime des usuriers et des gens de chicane. Les 2 millions de créances sur le comté d'Eu avaient été en grande partie rachetés par des créanciers postiches et véreux, avec lesquels il était impossible d'arriver à un règlement quelconque. Ces pêcheurs, en eau trouble, avaient porté le désordre au comble, en pratiquant des saisies. Tous les revenus passaient en frais, Les deux tuteurs demandaient au Parlement de les dépêtrer de cette glu en ordonnant la main levée de toutes les saisies et arrêts et en disant qu'ils seraient sursis à toute poursuite et saisie faite contre eux pendant 2 ans. Ils espéraient arriver pendant ce répit à une liquidation générale. Contre les paysans normands, personne ne voyait rien à faire que de les passer au plus vite par la vente du comté de un maître capable de leur en imposer. La difficulté dont l'État où était alors la France était de trouver une personne de qualité pouvant disposer de plusieurs millions. On avait pensé tout de suite à Mademoiselle, qui avait toujours de l'argent. Alors trop occupée à se débattre avec son père, mais l'idée lui avait souri, et elle y était revenue dès qu'elle avait eu les mains libres. Le marché fut conclu en 1657. Cela ne faisait point l'affaire de la chicane. Il y eut tant d'opposition, tant de complications procédurières, il fallut tant de procès et tant d'arrêts pour que Mademoiselle pût se mettre en règle et posséder eux dans les formes que des années s'écoulèrent encore. La requête des deux tuteurs en témoigne. Avant que les paysans d'eux fussent dérangés de leur travail de termites. En attendant, ils avaient continué à dévorer la substance de l'orphelin princier, aidés, il faut le dire, par d'autres Normands qui, pour n'être pas paysans, ne s'en montraient ni plus scrupuleux, ni moins avides. Comment les uns et les autres s'y prenaient? On le sait très exactement par les archives du château d'Eux. Au moment même de la requête des tuteurs, Mademoiselle avait envoyé un homme à elle se rendre compte de l'état des choses. Le rapport de son argent, complété par d'autres papiers d'affaires, établit que le comté d'Eux tirait plus de la moitié de son revenu de sa forêt. Cette forêt, qui existe encore, contenait 10 à 11 000 acres, avait 8 à 9 lieues de long et aurait dû être tout entière en futaie de divers âges. Mais les riverains avaient si bien travaillé qu'on n'y aurait pu trouver une poutre. Elle était maintenant tout entière en taillis et souvent en mauvais taillis à cause des bestiaux qui la dégradaient. Tout le pays avait contribué à cet extraordinaire escamotage d'une forêt de 8 lieues. Une vingtaine de villages, plusieurs abbayes, des gentilshommes, des prêtres, de simples particuliers, étaient venus sous prétexte d'un droit usager, prendre le bois comme s'il était à eux. Les gardes de la forêt en avaient fait autant, et leurs parents ou amis à leur suite. Les officiers du domaine avaient coupé à tort et à travers ce que le public voulait bien leur laisser. Et, pour compléter la ruine des bois, chacun avait envoyé ses vaches ou ses porcs dans les jeunes tailles. L'agent de Mademoiselle concluait qu'il fallait absolument arrêter ce pillage, sans quoi l'on ne ferait jamais 50 000 livres de bois par chacun an. Il signalait d'autres abus. La nature des revenus seigneuriaux les rendait inévitables en l'absence d'une main ferme. J'ai sous les yeux plusieurs tableaux des revenus du comté d'Eux au XVIIe siècle. Les fraudes devaient être faciles et tentantes, la perception des impôts très coûteuse. On remarque d'abord une redevance payable à Noël en argent et en nature par tous les habitants possesseurs d'un bien fonds quelconque, maison ou masure, champ ou jardin. François Guignon, du village de Griel, doit 40 sols de chapon à cause d'une maison audite Criel. François Dubuc doit 8 sols, un tiers de chapon à cause d'une maison. Guillaume Fumchon
doit 43 sols et de chapons à cause de demi-acres de terre. Les Oirs Gendry doivent 8 sols et la moitié d'un chapon. Jean Rose doit 31 sols, 2 poules et 11 œufs à cause de ses terres aux champs. Le sieur de Saint-Igny, du Ménil à Caux, doit 4 livres, 9 sols, 10 boisseaux de bled et pareil nombre d'avoine. Alison doit 3 sols, 6 deniers et un tiers de chapon. Un cultivateur de Greny doit une mine de bled, 15 boisseaux d'avoine et une poule. Un autre, 2 boisseaux, une carte d'avoine et un quart d'oie. Un autre, 5 quarts d'oie. Ainsi de suite, pendant 350 pages, in folio. L'impôt, dit du travers, frappait les marchandises, entrant à eux par la porte de Picardie. On payait tant par chariot ou cheval chargé. Les bouchers payaient pour chaque bœuf, vache ou porc, un denier. Pour chacune blanche bête, une obole. Les poissonnières, pour chacun panier à bras, deux deniers. Les fourreurs, pour chacune peau, une obole. Venait ensuite l'impôt de la friperie ou chancherie, pour lequel est dû de chacun lit qui se vend en la ville d'eux, soit neuf ou vieux, quatre deniers. Et pour chaque robe, pour point, chausse ou autre chose, à l'usage d'homme ou femme, quand ils sont vendus, un denier. Le marchand de toile devait également un denier, sur peine d'amende, pour chaque coupe vendue. Il était perçu une taxe pour le mesurage des grains et le pesage des marchandises. Les moulins étaient la propriété du seigneur d'eux et il n'était pas permis de faire moudre ailleurs que chez lui. L'agent de mademoiselle recommandait d'y tenir la main. Ce qu'on avait négligé, ce qui faisait que le revenu était diminué. Les pêcheurs du Tréport payaient chaque marée 500 harengs. Les orsins qui venaient pêcher au Tréport payaient 1 millier de harengs de chaque marée. Appartenaient au seigneur d'eux les épaves qui n'avaient pas été réclamées dans le délai d'un an et tous poissons royaux comme esturgeon, baleine, marsouin ou de mer et autres grands poissons. Ce n'est pas tout. C'est assez pour expliquer la rapidité avec laquelle fondait le revenu d'un bien seigneurial quand il n'y avait plus là pour faire peur au petit monde, solliciter les juges en cas de procès, suivant l'usage du temps, et recourir au roi, s'il en était besoin, un personnage important ayant, selon l'expression populaire, le bras long. Le mal était connu et le remède aussi. L'état déplorable où il avait trouvé les choses n'avait pas du tout inquiété l'agent de mademoiselle. Connaissant sa maîtresse, il ne doutait pas qu'elle vînt à bout des Normands et il lui prédisait une bonne affaire. « Si l'on met l'ordre à tout, disait-il, comme il y a apparence qu'il sera facile, le comté d'eux se fera une terre fort considérable et de grands revenus. » Le mot « facile » était de trop. Le comté d'eux fut enfin adjugé à Mademoiselle de Montpensier par décret du Parlement de Paris le 20 août 1660 pour la somme de 2 550 000 livres. Elle s'occupa sur le champ de sauver les restes de la forêt et trouva la population liguée contre elle pour garder sa proie. Au bout de 6 mois, mademoiselle sentit qu'elle n'était pas la plus forte et s'adressa au roi. Elle lui exposait qu'elle avait établi pour la surveillance de ses bois un personnel nombreux qui lui coûtait extrêmement à entretenir, mais
que les riverains ayant pris l'habitude d'entrer hardiment dans ladite forêt et d'y commettre jour et nuit toutes sortes de délits, se vantent de continuer. Qu'ils viennent de tuer l'un de ses gardes d'un coup de fusil dans le ventre pour avoir voulu empêcher un vol de bois, qu'ils menacent les autres de les mettre collecteurs d'impôts, ceux qui ne leur laisseraient plus le temps de garder, qu'ils les surtaxent à la taille et autres impositions, qu'ils font en un mot leur possible pour rendre la position du personnel intenable. En conséquence, mademoiselle demandait au roi qu'il fût particulièrement défendu aux riverains de tenir chez eux et de porter arme à feu ou autre arme de défense. Et qu'il fût au contraire permis à ses gardes d'être armés. Elle réclamait aussi pour eux certains privilèges qui devaient leur permettre de punir les délinquants. Louis XIV accorda tout et l'on put arrêter les déprédations. À la mort de mademoiselle, la forêt d'Eux était remise en futaie. Quant à supprimer les usagers, mademoiselle avait beau être cousine germaine du roi, son pouvoir n'allait pas jusque-là. Il fallut se borner à les empêcher de multiplier et à limiter leurs exigences. Entre Eux et le propriétaire, l'état d'hostilité était chronique. Du reste, il existe encore des usagers en France. Chacun peut observer sur le vif les inconvénients du système. Le seul désintéressé qui ne cira pas son épingle du jeu fut le petit prince de Joinville. Ses créanciers avaient continué leur manœuvre pour éviter un règlement. Le 27 mars 1661, le Parlement de Paris rendit un arrêt qui les obligeait à se laisser payer. Il y avait alors 8 ans de la mort du duc de Joyeuse. Les 2 millions de dettes avaient fait la boule quand tout fut terminé. Au lieu d'avoir un reliquat pour leurs pupilles, les tuteurs se trouvèrent en face d'un déficit de plus de 150 000 livres. Nous avions déjà vu Gaston dilapider impunément, en sa qualité de chef de la maison, la fortune de sa fille mineure. Ici, c'est au contraire la disparition du père de famille qui permet de dépouiller un enfant. Mazarin avait laissé faire Gaston pour punir mademoiselle de sa conduite pendant la Fronde. Louis XIV semble avoir pris peu d'intérêt au rejeton de la turbulente et ambitieuse famille de Guise. Dans l'un et l'autre cas, les bonnes ou mauvaises dispositions de la royauté avaient décidé de l'issue d'une affaire d'argent. Mademoiselle avait pris possession officielle de le 24 août 1661. On lui avait ménagé une entrée comme elle les aimait, avec cortège, drapeau, harangue, lanterne vénitienne, salve de mousqueterie et de toute l'artillerie de la ville. 12 pièces de canon et 40 boëttes. Sur les remparts, 8 canons et 40 boëttes. Sur la terrasse du château. Elle revint l'année suivante, mais ne s'installa vraiment à Eux qu'en 1663, après avoir obtenu la permission de quitter Saint-Fargeau.
« Je vins ici, résolu d'y passer mon hiver sans avoir aucun chagrin. »
Elle regardait travailler ses ouvriers, se promenait beaucoup et devenait assidue aux offices. On venait la voir.
Il y avait quantité de dames du pays, raisonnables, force gens de qualité. Ma cour était grosse. Il vint des comédiens, mais je n'étais plus d'humeur à cela. Je commençais à m'en rebuter. Je lisais, je travaillais. Les jours d'écrire emportaient du temps.
toutes ces choses le font passer insensiblement. Cette page des mémoires laisse entrevoir une vie assez terne. Une lettre de mademoiselle à Bussy-Rabutin confirme et accentue l'impression à eux. Ce 28 novembre 1663. Voici l'unique réponse à vos lettres. Je prétends que vous m'en écriviez 4 contre moi 1 et je crois que je vous ferai plaisir. Car que peut-on demander d'un désert comme celui-ci où l'on ne verra personne de tout l'hiver, les chemins étant impraticables pour les gens de lointaines contrées, comme vous pourriez dire vers Paris, et les vents étant tels dans les plaines, par où il faut que les voisins viennent, qu'il n'y en ait pas un qui ne redoute le nord-ouest, qui est fréquent ce pays, comme une bête farouche. Ainsi, j'aurai le temps de lire les lettres qu'on m'écrira, et un peu d'esprit, encore moins de matière, pour y répondre. » La situation du château d'Eux est mélancolique. Le vent de mer, véritablement farouche. Aux environs, les gazettes de Paris apportaient des descriptions de fêtes et des visions de gloire qui contrastaient avec la médiocrité d'une cour provinciale. Mademoiselle avait beau être décidée à ne pas s'ennuyer, elle éprouvait, comme toute la France, que, loin du roi, la vie n'était plus la vie. Ce n'en était plus que l'ombre.